Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Auditeur de Radio Silence. Le titre de notre chronique Finance 15, l'oppression augmente. Tout d'abord, comme à l'accoutumée dans l'actualité économique, cette fois-ci dans l'actualité économique financière, je note que Nicolas Sarkozy tient absolument à ce qu'on le crédite pleinement de l'imposition, et je fais ici avec jeu de mots, l'imposition dans le sens de la coercition et dans le sens du prélèvement de la taxe carbone dans le paysage fiscal français. Il s'agit d'un impôt nouveau. Chaque chef de l'État, depuis 50 ans, a tenu ainsi à inventer de nouveaux impôts, le plus grand nombre venant de la part de Mitterrand. L'imagination ne manque pas pour taxer les gens. Claude Allègre, dans une interview sur France 24 de la semaine dernière, a appelé un chat un chat. Je le cite. La secrétaire générale des Verts a déclaré que les Français devaient s'habituer à payer l'essence chère. Elle ignore, dit-il, sans doute que les Français sont déjà habitués à la payer très chère, puisque le prix comporte déjà 80% de taxes. Et j'ajoute, soit 400% sur le prix hors taxe, en calcul équivalent TVA, donc la plus énorme pratiquée à ce jour. Sarkozy essaye de faire croire que le produit sera entièrement redistribué. On ne peut pas être davantage socialiste que ce Matuvu-là, qui organise une amplification des transferts sociaux. Mais rassurez-vous, comme tout le monde sans doute, le produit de cette taxe-là servira d'abord et avant tout à faire la trésorerie de l'État aux abois. Point final. Qui plus est, Claude Allègre a rappelé, citant un de ses propres ouvrages, qu'il n'y avait aucun réchauffement climatique, seulement pouvait-on observer un changement climatique avec des événements météorologiques très accentués, comme on en a déjà connu souvent au cours des siècles et millénaires passés. Les gens doivent donc s'adapter à ces changements vers des extrêmes, toujours plus froids en hiver et toujours plus chauds en été. C'est donc toute la justification de la taxe carbone qui s'écroule. Claude Allègre l'a d'ailleurs ruinée définitivement en précisant que cette théorie du réchauffement climatique émanait d'une secte dangereuse, celle des écologistes. Voilà pour une fois un socialiste, qui plus est ancien ministre de l'Éducation nationale, qui ne pratique pas la langue de bois. Et le pilote d'avion que je suis est bien d'accord avec ces analyses-là. Au bout, il n'y a que la certitude de la récession accentuée du PIB privé sous le poids encore alourdi des prélèvements obligatoires. J'observe à nouveau que dans le même temps, et contrairement à ce que raconte Sarkozy, il n'aide pas les Français à changer de source d'énergie puisqu'ils n'encouragent pas la production automobile avec des moteurs hybrides que les USA produisent en masse depuis 25 ans et surtout depuis 10 ans, notamment en Californie. Les USA sont dépendants depuis seulement 20 ans des importations de pétrole et ils font tout pour faire cesser cette dépendance. La France, pendant ce temps, continue à vivre au néon et à l'essence depuis les années 50, parce que l'État ne cesse de compter sur les taxes prélevées avec la complicité des grandes compagnies pétrolières pour alimenter sa gabegie. Le vrai courage d'un vrai chef de l'État aurait donc consisté à réduire drastiquement les dépenses pour diminuer en nombre et en masse les prélèvements obligatoires. L'habillage écologiste de la taxe nouvelle me rend cet impôt encore plus insupportable. Et vous ? Mon conseil patrimonial du jour, dans l'état actuel du cours du dollar US à 0,67 pour 1 euro, je vous conseille donc vivement l'achat premier ou, si vous en avez déjà, l'achat complémentaire. Tous les commentaires disponibles partout prétendent soit à la disparition pure et simple du dollar et même des États-Unis aux oubliettes de l'histoire dans les mois à venir, soit à la résurrection de l'or au détriment du dollar comme monnaie de règlement mondiale. En fait, tous ces commentaires sortent des délires d'ignorants en matière monétaire, bien trop primaires. L'affaiblissement du cours du dollar US a laissé libre le redressement déjà constaté, je répète, de la consommation aux États-Unis. Cet affaiblissement favorise l'exportation des biens américains primaires, transformés ou manufacturés, malheureusement pour les nôtres, bien trop chers. Le redressement économique est donc évident déjà aux USA, tandis que l'Europe s'enfonce dans la récession, et surtout la France. Les cours vont donc forcément s'inverser dans quelques mois, 2 ou 3 ans au plus, laissant ainsi un bénéfice prévisionnel de plus ou moins 100%. Surtout que l'euro, monnaie unique d'un ensemble hétéroclite de pays divergents complètement dans toute leur politique, voit son existence même menacée de l'intérieur de la zone où il fut imposé. Ce qui nous amène par l'actualité à retrouver comme d'habitude un chapitre de l'histoire de la monnaie, le numéro 15, intitulé « L'essor de la monnaie reconnaissance de dette ». Replongeons-nous. L'ignorance, toujours, par la banque émettrice de ratios de prudence ayant abouti à aventurer une trop grande proportion de dépôts à vue, trop fragilisée par la méfiance envers cette nouveauté de la part d'un public élargi, peu informé de l'usage de papier-monnaie, aboutit donc à la faillite des premiers assignats. Cette méfiance du peuple s'en trouva renforcée pour longtemps envers cette invention, nouvelle pour lui. John Law n'avait pourtant pas tort sur le fond, et son invention est à la base de l'essor économique du XIXe siècle. Le seul tort général fut celui des gouvernements anglais et français qui l'employèrent, qui cherchaient une réponse immédiate à un problème ressenti par eux comme insoluble, la nécessité de répandre plus de monnaie sans avoir les réserves de métaux nécessaires. Bien sûr, la solution résidait dans une réévaluation énorme de la monnaie métallique en termes de pouvoir d'achat. Mais ils ne trouvèrent pas le moyen de la faire sans favoriser outrancièrement les thésauriseurs. Le même problème, avec la même lâcheté dans les décisions prises, s'est reposé en 1965, environ 2 siècles plus tard. John Law a-t-il eu conscience qu'il inventait un système qui allait dévoyer les banques et leur donner par la suite le pouvoir absolu sur les États? Je ne sais. En 1765, l'écu d'argent vaut 5 francs et 6 écus valent 1 livre tournois, laquelle équivaut donc à 30 francs. L'écu d'or vaut, lui, 24 livres tournois. Il y a donc un rapport de 1 à 4 seulement entre l'argent et l'or. L'invasion de la drogue monétaire américaine fait encore sentir ses ravages 2 siècles après les premiers pillages des Amérindiens. En 1785, soit 9 ans après le départ des Anglais, le dollar US fut créé. Il valait 5 francs 39 alors. 2 ans plus tard, en 1787, la livre sterling est aussi créée par l'Angleterre, qui défend ainsi son indépendance monétaire vis-à-vis du continent où règne la livre tournois depuis 5 siècles. L'Angleterre prépare alors sa revanche contre la France de Louis XVI, qui l'avait humiliée avec une défaite totale aussi bien navale que sur terre. Cette livre sterling vaut à sa création, en 1727, 26 francs 20, soit environ 5 fois le dollar. La force de la livre sterling valant donc 5 dollars donnait à l'Angleterre une capacité de tenir, dans le futur, les rebelles américains sous sa coupe. De fait, dès lors, la livre sterling ne cessa de s'imposer davantage comme la monnaie de règlement du monde. En 1789, Louis XVI cherche en vain auprès des États généraux le moyen de solder les dernières dettes occasionnées par la guerre contre l'Angleterre, déclenchée par la volonté de nous prendre le Canada, français depuis François Ier. Cette guerre coûta 2 milliards de livres tournois. Louis XVI, sur les revenus et une partie du capital du domaine royal, en paya directement 1,1 milliard. Restait donc seulement moins de la moitié, 900 millions de livres tournois à solder. Il faut se rappeler que la seule justification à l'impôt était la guerre. Dans ce cas, l'impôt était une obligation du peuple au terme des lois fondamentales du royaume, depuis toujours. Louis XVI avait donc un dossier excellent, puisqu'il ne réclamait même pas la totalité, mais seulement moins de la moitié. Mais l'Angleterre, la perfide Albion, veillait au grain. Elle dévoya par corruption beaucoup de monde déjà préparé psychologiquement, on dirait de nos jours conditionné par les écoles de pensée, c'est le nom, c'est-à-dire les 2000 loges maçonniques implantées à grands frais en France et à toute vitesse. Beaucoup de députés corrompus, tantôt par l'argent ou l'or, tantôt par de simples idées, tantôt par les deux, furent entraînés à désobéir au roi et, ce faisant, à violer nos lois fondamentales, sans toujours voir qu'ils faisaient le lit de l'affaissement de la France au profit de son ennemi de toujours, l'Angleterre. Mais passons provisoirement sur cet événement effroyable que fut la Révolution. Les Anglais furent même sidérés de voir les Français marcher aussi vite à l'abîme, ouvert sous leurs pieds pour les perdre. En 1797, la Révolution décrète le franc dit de Germinal en 11 au poids de 4,49964 g d'argent pur, et la livre tournois ne vaut plus alors que 18,74 francs, mais au poids total de 84,31 g, qu'elle retrouve pour la première fois depuis 4 siècles. Le franc germinal pèse aussi 0,2903 g d'or pur. Ce poids correspond au centième de l'once ancienne, laquelle, sauf en Angleterre, restera constante jusqu'à nos jours. L'once anglo-saxonne pesant 31,103 g, au lieu de nos 29,03 g continentaux. Le rapport de l'or à l'argent est donc redevenu plus normal, entre guillemets, à 15,5 pour 1. On constate alors la mise en circulation de 2,9 millions de livres sterling en billets contre 1,27 millions de livres sterling seulement détenus en or ou en argent par la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire 2,28 fois plus de billets. La marche vers la généralisation de la monnaie papier, reconnaissance de dette, était lancée. Elle ne devait plus s'arrêter, sauf en 1980, environ 2 siècles plus tard. Dans notre chapitre suivant, nous aborderons le 19e siècle et l'expansion des reconnaissances de dette en livres sterling sous l'effet de leur circulation imposée comme monnaie de règlement international, et nous verrons comment le continent répondit à cette imposition et comment il s'y opposa. Notre prochain chapitre, le numéro 16, aura donc comme titre « L'invention du cours forcé ».